Vivrons-nous demain ? Jean-Pierre Estrampes. Architecture, urbanisme, territoire, cadre de vie. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, nous commençons l'année 2020. Nous allons le commencer avec les vœux traditionnels. Et quand je dis traditionnel, ça veut dire que chaque année, on recommence ce rituel de la cérémonie des vœux sur le cycle annuel qui nous renvoie aux années, qui nous renvoie aux saisons. Alors aujourd'hui, le propos, je vais vous parler des cycles. Des cycles, bon, on va commencer par ce dont on parle, du cycle des saisons. Mais évidemment, on va le ramener à l'architecture, aux villes et aux civilisations. Et en dexième partie de l'émission, je vous parlerai d'une interprétation, évidemment liée au cycle, du mythe de la tour de Babel. Donc, j'étais en train de vous dire que les cycles, notamment ce cycle des saisons, on a à partir du 21 décembre, le début de l'allongement des jours de l'année. Et c'est quelque chose qui nous échappe parce que nous avons perdu ce contact, probablement qui était celui des cycles et des saisons, de nos ancêtres et de nos anciens paysans, le rapport à la terre que nous avions dans ce pays. Et je vous citerai l'écrivain Thomas Mann qui, parlant du solstice d'été du 21 juin, disait que c'était le jour le plus triste de l'année parce que c'était le jour où les jours diminuaient. Donc on pourrait dire que le 21 décembre est le jour le plus gai de l'année puisque il annonce l'allongement et le déroulement des saisons vers une amplitude de temps et aussi l'espérance de la nature qui va renaître. Donc, cette vision du cycle est quelque chose de rassurant puisqu'en fait, on sait ce qui va se passer. Et on attend dans à la fois ce que je vous disais de Thomas Mann ou du solstice d'hiver, à la fois une sorte de pessimisme et aussi d'optimisme, mais il y a ce côté rassurant du cycle. Et je pense que notre civilisation a perdu ce sens du cycle qui pourtant était quelque chose vécu comme universel. C'est-à-dire que on admettait que les civilisations aient une fin et on avait un rapport à l'antique avec des civilisations passées que l'on avait le désir de régénérer. Puis on savait que elles avaient disparu, décliné et on voyait aussi l'espoir de les revivifier. Aujourd'hui, alors, on va parler aussi quelques instants de la manière dont les choses se sont passées dans le siècle précédent, peut-être même un peu avant, à la fin du 19e siècle. J'en avais déjà parlé dans d'autres émissions. C'est cette rupture par rapport au cycle et une vision qui va être une vision qui est liée à l'évolutionnisme. En fait, on remplace l'idée de cycle par une sorte de courbe qui est celle qui a été, on peut dire, initiée par la découverte de Darwin sur l'évolution. Alors, il ne s'agit pas de remettre en cause une vérité scientifique qui aujourd'hui ne peut pas être mise en cause d'aucune manière, mais c'est ce que je voudrais faire remarquer, c'est justement tout ce qui a été décliné par rapport à cela. C'est-à-dire qu'on a appliqué le principe de l'évolution biologique aux sociétés et on a eu un rapport qui était autre, c'est-à-dire qu'on était dans le rapport du progrès. Et Auguste Comte, le philosophe, économiste, sociologue, que sais-je, natif de Montpellier, Auguste Comte a fait l'histoire des civilisations de l'enfance, de l'adolescence, de l'âge adulte. Donc l'homme était dans un processus de civilisation qui n'était pas un cycle, mais qui était une évolution. Alors, l'avantage des évolutions, c'est que elles donnent une foi optimiste dans le progrès, mais le problème, c'est quand ça atteint l'inverse, eh bien, on n'a plus l'optimisme est remplacé par un pessimisme, et on pense que la courbe du déclin va continuer sans aucun espoir. Et pour revenir au titre de l'émission, où vivrons-nous demain? J'en avais parlé, elle est tirée d'un titre d'un ouvrage d'un écrivain critique français, Michel Ragon, qui, dans les années 60, a fait ce livre, Où vivrons-nous demain, et qui montrait un futur qui était évidemment, quand on le regarde aujourd'hui, était totalement naïf, dans lequel il y avait un progrès total, une croyance totale dans le progrès, et de ce fait, on avait une vision qui était totalement sans le balancier de l'histoire, uniquement à sens unique. Alors, je pense que c'était associé aussi, certainement, à la vision du communisme qui annonçait le lendemain qui chante, la libération de l'homme, du travail, de l'asservissement, de l'exploitation. Il y avait, je pense, dans ces années-là, toujours cette croyance qui s'est révélée évidemment après l'effondrement du mur de Berlin a montré quel était le leurre que nos sociétés poursuivaient. Alors depuis, effectivement, l'optimisme du progrès est remplacé par le pessimisme et le déclin que l'on vit aujourd'hui. Donc le futur rassurant du cycle est passé du progrès optimiste et par une vision qui est aujourd'hui totalement anxiogène. Alors, cette notion de balancier de l'histoire qui fait qu'on passe d'un état à un autre dans nos civilisations, mais qui est aussi, comme je disais, le cycle de la nature. Mais on admettait que après la guerre, il y avait la paix, et que aussi les civilisations pouvaient changer de forme et qu'il n'y avait rien de pérenne. Et cette dualité qui est au cœur de la nature humaine, qui fait le nomade et le sédentaire, qui fait que il y a une tendance qui va être orientée vers la nature et puis une autre qui va être orientée vers l'homme. Je pense que aujourd'hui, il serait important de remettre cette dualité pour ne pas tomber dans une vision unique qui serait ce que l'on vit aujourd'hui, assez désespérante, parce que on a pris certains éléments négatifs de ce qui est notre quotidien et de notre civilisation, et de la manière dont on a montré ce futur en expansion, on montre aussi un déclin qui n'a pas de fin. Et c'est pour ça que des expressions comme « on va droit dans le mur » reviennent aujourd'hui. Par exemple, on vous dit que les millimètres de montée des eaux, en continuant la courbe, on arriverait à 10 mètres dans les années fin du siècle ou je ne sais. Tout ça, c'est de ne pas admettre qu'il peut y avoir des cycles et des revirements et des inversions dans ce que nous vivons. Alors, dans ce qui concerne le domaine de l'architecture, dans l'histoire, on en avait déjà parlé, il y a par exemple une des périodes où on va aller vers la transparence totale, qui a été par exemple l'époque gothique, qui a remplacé l'époque romane et qui est aussi notre époque, où on a des bâtiments qui sont transparents, ça veut dire qu'ils sont plus légers, le monde n'est plus fermé et on a perdu l'opacité. Mais il ne s'agit pas d'un progrès, il s'agit simplement d'une autre vision du monde et les sociétés ont leur cohérence, ont leurs avantages et leurs inconvénients. La transparence a des qualités, mais la transparence a des défauts, puisqu'en fait, tout devient visible, et par exemple, on n'aurait plus d'intimité, et c'est une chose que l'on vit, non seulement sur un plan physique des bâtiments, mais dans la vie publique, et on voit aussi l'ingérence que produisent les réseaux dans le privé, qui sont aussi une atteinte aux libertés, même si on peut avoir aussi des côtés positifs. Donc cette dualité du monde s'exprime, comme je vous disais, dans l'architecture, elle s'exprime dans les villes, et on est passé par exemple des villes de l'opacité et des villes minérales, avec aujourd'hui un appel à faire rentrer la nature, sans voir que la nature, c'est-à-dire l'espace naturel, l'espace agricole, l'espace végétalisé, c'est justement l'opposé de la ville. Donc, c'est cette dualité ne doit pas apparaître comme un progrès, mais doit apparaître pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un changement de paradigme. On ne veut plus la ville totalement minérale et qui justement symbolise l'opposition à la nature. Et on veut un espace beaucoup plus fluide, beaucoup plus mobile et qui va faire rentrer le végétal. Donc, ma position n'est pas une position morale. Je ne suis pas en train de dire où est le bien, où est le mal. Je me garderai bien d'avoir ce rôle. Simplement, je veux renvoyer les choses que nous vivons dans un déroulement historique et de montrer que ce que nous vivons s'est déjà passé et se passera. Et quelque part, je pense que c'est quelque chose qui doit être rassurant. Donc, nous allons écouter en pause musicale Sting, An Englishman in New York.
Tea, my dear, I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York.
Sur les cycles, à partir d'un exemple qui, bon, apparemment ne vous parle pas par rapport au cycle, qui est le mythe de la tour de Babel. Donc les interprétations des mythes nous apprennent d'abord sur ceux qui les utilisent, et ce qui est intéressant, c'est la manière dont les mythes sont interprétés à travers les différentes époques. Donc on fait très souvent aujourd'hui référence à ce texte de la Bible qui est la tour de Babel. Alors ça nous renvoie à la fois aux problématiques des tours architecturales et justement on vient de quitter Sting qui était dans cette chanson à New York, qui est la ville symbolisant la verticalité des constructions. Et à travers cette verticalité des constructions se pose effectivement tout le problème qui est des tours, des bâtiments qui sont en concurrence pour être les plus hauts, et puis aussi le désir des villes d'avoir des bâtiments très hauts, comme par exemple l'exemple de Toulouse qui a un projet de grande tour. Alors, je ne vais pas aborder, bien sûr, le débat politique qui n'est pas du tout le sujet de la journée. Simplement, ce mythe de la tour de Babel, il est employé à la fois pour le bâtiment et il est employé aussi pour les langues. Alors, c'est intéressant parce que tout le monde répète, par exemple, on dit « c'est Babel » pour dire un endroit où on parle toutes les langues. Alors là, c'est déjà un point très curieux et je vous renvoie à l'histoire du mythe. Le mythe de Babel, je vous le rappelle, donc ce sont des hommes qui construisent sur une plaine un bâtiment qui est très haut. Alors effectivement, c'est tiré très certainement des ziggourats babyloniennes qui étaient donc ces grandes tours avec une circulation tout autour qui montait en rampe. Et donc on a le dieu qui est irrité par la hauteur de la tour et qui défait la tour, et les peuples qui parlaient une langue en construisant la tour sont renvoyés pour parler différentes langues. Alors, la manière dont le mythe est interprété, on parle de malédiction, bien que le thème ne soit pas du tout employé dans le récit biblique, mais c'est plutôt sa transcription et c'est la manière dont on l'entend. Donc la manière dont on l'entend, c'est qu'il y a une tour, alors aujourd'hui, cette tour serait certainement celle des instances comme l'ONU, qui est supranationale et qui est censée apporter une paix universelle par des peuples qui parlent à l'intérieur des différentes langues. Alors, comme je vous disais, c'est tout à fait surprenant parce que, justement, le mythe de la tour de Babel, c'est que on ne parle qu'une langue. C'est pour cela que Dieu, démolissant la tour, renvoie les bâtisseurs à une diversité de peuples parlant des langues différentes. Donc, quand on dit c'est une tour de Babel, c'est exactement l'inverse, puisqu'en fait, dans la tour de Babel, on ne parle qu'une langue. Donc, c'est quelque chose déjà qui est totalement singulier comme interprétation, on peut dire erronée, et interprétation même inversée. Puis, donc, il y a cette idée de malédiction, c'est-à-dire qu'en fait, il y aurait l'idée que la langue unique, qui est le mythe de l'espéranto, et qui est aussi, dans l'histoire, les langues uniques, ce qu'a été le latin pour le monde occidental, et aujourd'hui, ce qui est l'anglais, qui serait la langue véhiculaire, et qui devient aussi cette langue unique dont on parle dans le mythe de la tour de Babel. Alors, la vision que l'on aurait aujourd'hui, elle serait positive, c'est-à-dire que c'est la diversité des langues et les identités des peuples qui créeraient les guerres, et que s'il y avait justement la tour de l'ONU ou d'un gouvernement national qui veillerait sur, je ne sais, le climat ou les guerres ou la biodiversité, aujourd'hui c'est quelque chose que l'on entend d'une manière assez récurrente, cet appel à un gouvernement mondial, et je pense que c'est au cœur de l'histoire de la tour, du mythe de la tour de Babel. Donc, pour parler des langues, dans le récit biblique, il ne s'agit pas de dire que la langue unique est une bonne chose, puisqu'en fait, c'est exactement le contraire, puisque Dieu défait la tour parce que on parle qu'une langue. Donc, aujourd'hui, où nous avons cette vision positive de la langue unique de communication, qui s'opposerait justement aux langues et aux identités, nous vivons une époque où, justement, ce problème de l'universel et de la mondialisation s'oppose au problème des identités. Identité nationale, identité culturelle, identité linguistique. Alors on sait que c'est un débat qui agite tout le monde, avec évidemment des valeurs morales qui sont dans chaque camp, où on va décrire une mondialisation heureuse d'un côté, de l'autre côté une mondialisation qui serait négative à la fois pour les économies, pour les biens des personnes, pour les cultures nationales, et ce débat assez confus se recoupe avec les partis politiques traditionnels qui ne savent pas très bien où ils en sont, puisqu'en fait, c'est hors de tous les schémas anciens qui avaient justement déterminé tout ce qui pouvait être le conservatisme, tout ce qui pouvait être le progrès. Et on se trouve avec un débat sur les identités qui est extrêmement confus. Donc, je ne vais pas évidemment trancher le débat, mais je vous renvoie simplement à ce mythe qui n'est pas, à mon sens, une négation de la diversité des langues, mais au contraire, qui montre que l'orgueil des hommes est puni par Dieu et quelque part, les diversités des langues qui sont renvoyées aux différents peuples seraient plutôt considérées comme une diversité et une richesse, même si les mots ne sont pas dits. Donc c'est une vision qu'on pourrait avoir inversée par rapport à cette vision communément acceptée. Et le fait que on ait les identités des peuples et les identités des langues, il est, si on renvoie aux origines de la Bible, bah, dans l'histoire de la Bible, bah, c'est certainement le peuple égyptien qui est la puissance importante d'alors, et la Bible écrite par les peuples nomades d'Israël ou de qui sont autour de l'Égypte, justement, revendique des identités par rapport à l'empire dominant qui a une civilisation uniforme, unique, et qui s'étire sur des millénaires. Donc on a cette opposition qui traverse toute l'histoire de l'humanité, qui renvoie à le début de l'émission sur les cycles, où on passe des cycles nomades, et, ou du moins, si le mot nomade a peut-être une terminologie négative, on peut plutôt parler de mobilité avec les peuples sédentaires. Donc aujourd'hui, on est en plein débat sur la mobilité, à la fois les mêmes personnes qui veulent manger local voyagent à l'autre bout du monde, et on est, je crois, sur un questionnement qui est civilisationnel et qui traduit justement notre incompréhension du cycle, et chaque fois on met des termes, un terme moral ou des termes qui vont nous amener à, comme je le disais tout à l'heure, droit dans le mur, c'est-à-dire on va avoir le déclin absolu, la fin du monde, c'est collapse, c'est totalement anxiogène. Alors, attendu que on pourrait simplement le réguler. Et comme toujours, les choses ne sont jamais totalement opposées. C'est-à-dire que le balancier de l'histoire, quelque part, il s'arrête quelque part et préserve la dualité. Et c'est, je crois, le fond de la nature humaine qui est dans cette dualité. Cette dualité qui est du désir d'être l'autre. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y a à la fois le nomade et à la fois le sédentaire. Et c'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. On ne peut pas avoir un schéma qui soit unique, que les civilisations qui ont essayé d'avoir totalement le sédentaire, ça veut dire qui empêche les gens de bouger, ce qui a été le cas par exemple des régimes communistes où on était interdit, si ce n'est la nomenclature, de se déplacer. Et à l'inverse, des populations totalement nomades, quelque part ça n'existe pas, parce qu'il y a toujours des points d'accroche, des points d'ancrage, des points où de référence où on peut s'arrêter et se rencontrer et se retrouver. Donc, ce que je vous disais sur cette dualité, qui est la dualité humaine, je pense qu'il faudrait le prendre avec une certaine ouverture d'esprit, peut-être, en tout cas, un optimisme. Et je pense que ce mythe de la tour de Babel que j'ai essayé de vous, je ne sais pas si de vous relire, en tout cas, d'une autre manière, et peut-être une sorte de prémisse pour un avenir plus optimiste que ce que l'on peut entendre dans ce début d'année 2020. Bah, c'est tout ce que je nous souhaite à tous. Et en attendant, je vous renouvelle mes voeux de 2020 pour une année heureuse. C'était où vivrons-nous demain ? Merci à Hugo Pépitone qui officie à la technique. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site d'Esprit Occitanie et sur l'application smartphone. Bonne journée à toutes et à tous et à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une nouvelle émission de « Où vivrons-nous demain ?»